Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G, qui vous invite à partir en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages tous les vendredis pairs à 13h. Cette émission prend un format spécial aujourd'hui puisqu'elle se déroule dans les locaux du Plantis à Écuyer pour une émission collégiale en présence de toutes les chroniqueuses de l'émission, celles qui vous accompagnent durant toutes ces saisons avec un format spécial d'une heure. Durant cette prochaine heure, donc, nous vous invitons à découvrir en vrai les coulisses de cette émission et le fonctionnement de tout cet écosystème radiophonique consacré aux plantes sauvages. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste, conseil et paysagiste conceptrice. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour cette nouvelle émission en direct au Plantis. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je suis entourée par Arcandia dans sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages ». Et qui anime les jardins d'Arcan. Bonjour Arcandia.
Bonjour Claudie.
Nous avons Karine qui anime Le Bonheur est dans les simples et qui produit des plantes aromatiques et médicinales chez Bonaflora. Bonjour Karine.
Bonjour Claudie.
Nous avons aussi Laura, animatrice des chroniques paysannes, paysanne distillatrice à HF.
Bonjour.
Nous avons aussi Marie, alors Marie Chevreul, parce que nous avons plusieurs Marie, dans sa chronique « Enherbez-vous », la chronique culinaire des plantes vagabondes.
Bonjour Claudie.
Bonjour Marie. Donc nous avons aussi une autre Marie, Marie Fortin, qui anime l'aquabulaire « Les mots de la rivière », qui est hydrobiologiste et spécialiste du cycle de l'eau.
Bonjour à toutes.
Et enfin Noël, chroniqueuse de Nos Voisins Sauvages et par ailleurs cueilleuse de plantes et animatrice chez Nature et Simple.
Bonjour tout le monde, bonjour Claudie.
Voilà, l'équipe est au complet. Donc vous l'aurez compris, nous allons passer un très bon moment ensemble. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Les plantes sauvages, souvent méconnues ou sous-estimées, sont-elles une clé pour répondre aux défis de demain ? Alimentation, santé, biodiversité et résilience écologique. Comment les préserver et les utiliser de manière durable pour construire un avenir plus sain? Dans cette émission, nous parlons chaque mois des plantes sauvages qui poussent souvent sous nos pieds sans qu'on y prête attention ou à l'inverse que l'on voudrait trop souvent faire disparaître de nos paysages. Et si ces végétaux pouvaient jouer un rôle majeur pour l'avenir de l'humanité? Dans un monde où les ressources se raréfient et où les écosystèmes sont menacés, ces végétaux libres et résilients offrent des solutions insoupçonnées. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les plantes sauvages peuvent nourrir, soigner et même inspirer nos sociétés. Alors, grâce à nos 6 invités, nous allons explorer ensemble ce sujet sous un angle très positif. Et donc, nous allons tout d'abord partir à la découverte des différentes chroniques des plantes vagabondes que vous avez eu le bonheur d'écouter tout au long de l'année et jusqu'au mois de juin. Et nous allons donc commencer par Noël. Et donc, le petit exercice, c'est que nos chroniqueuses vont s'interviewer par binôme. Ça va être beaucoup plus sympa. Donc, Noël va être interviewé par Marie.
Merci Claudie. Alors Noël, on a discuté ensemble juste avant cette émission et tu m'as parlé à la fois de ton métier et de ton entreprise Nature et Simple, mais aussi de ta chronique qui s'appelle donc Nos Voisins Sauvages. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment cette passion t'est venue et quel a été le point de départ de ton métier et de ta chronique ?
Alors, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé à être dans le vivant, à m'intéresser à tout ce qui m'entourait très tôt. Ça a commencé par l'observation des oiseaux. Quand j'avais une quinzaine d'années, ou peut-être même avant, Je me cachais dans les haies et j'avais mes jumelles et un guide d'identification et j'observais les petits oiseaux qui s'approchaient tout près de moi parce que j'étais finalement en position d'affût et pendant plusieurs heures. Donc j'avais cette chance de les voir tout près. Et voilà, des vacances à la ferme aussi, enfin vraiment un lien très très proche de la nature assez tôt. Et donc j'ai toujours travaillé dans ce domaine du paysage, de l'environnement. Depuis une quinzaine d'années, j'ai mon activité donc Nature et Simple, qui est de la cueillette de plantes et de la transformation, ainsi que de l'animation en nature. Et donc nos voisins sauvages, alors ça n'a pas forcément trait aux plantes, hein, puisque là dans nos voisins sauvages, pour moi je parle des animaux qui vivent tout près de nous, qui vivent dans les mêmes habitats en fait, qui sont à qui je voulais rendre hommage et rendre leur lettre de noblesse, parce que souvent ils sont mal perçus.
D'où ce nom de nos voisins sauvages pour qualifier ta chronique.
Voilà, c'est ça. Donc sauvages puisque ce sont des animaux qui ne sont pas, ce sont pas les animaux domestiques ou élevés, ce sont bien les animaux qui vivent dans les milieux sauvages autour de nous, et nos voisins parce que bah, ils font, voilà, ils font partie des, ils vivent aux mêmes endroits que nous, dans les mêmes habitats, dans le même environnement, et voilà, on a chacun notre place, eux comme nous, dans cette, dans ce vivant.
Ouais, c'est passionnant. Et jusqu'à maintenant, tu as déjà réalisé 4 chroniques. Il y en a une 5e à venir. Je ne vais pas spoiler les auditeurs, donc je ne dirai pas quel est le thème. Mais parmi les 4 chroniques que tu as déjà réalisées, est-ce qu'il y en a une qui a été plus marquante que les autres, une que tu as peut-être préféré écrire ou pour laquelle tu as mis plus de cœur à l'ouvrage que dans les autres?
Alors, il y a eu 4 chroniques pour le moment. Et peut-être la première où je parle justement de cette envie de transmettre sur, ben voilà, sur ces animaux qui sont tout près de nous et qui méritent leur place. Et où je parle aussi de la notion de séparation qu'on a tendance à faire, tout le monde, hein, entre la nature et l'humain. Et rien que ce mot de nature parle d'une notion de séparation. En fait, il n'y a pas la nature et nous. Nous faisons partie, comme les animaux, comme les végétaux, comme les minéraux, d'un tout. Et voilà, chacun sa place. Donc là, j'en parle beaucoup plus sur la première émission pour donner un peu le contexte de ce pourquoi j'anime cette chronique. Et donc ensuite, bah, y a eu plusieurs animaux.
Ouais, alors tu as commencé par le merle, ensuite tu as parlé du renard, de la martre, de la fouine. Moi, j'ai tendance à dire c'est les mal-aimés, on a peut-être un regard négatif. Est-ce que tu pourrais amener une petite conclusion positive, hein, sur ces mal-aimés?
Alors en effet, ce sont pour ces raisons-là, en effet, que j'ai parlé de ces animaux, surtout du renard, de la fouine et de la martre. Parce que c'est vrai que dans nos campagnes, il faut dire, ce sont des animaux qui sont souvent, en effet, pas très appréciés. Alors ce que je fais dans ces chroniques, c'est que déjà je parle de ces animaux pour les reconnaître, pour les connaître. Quand on connaît mieux quelque chose, on a souvent envie davantage de le respecter. Et je donne aussi des petits outils, des petites idées pour faire avec. En fait, pour adapter son poulailler, pour adapter son grenier, parce que c'est vrai que ce sont des animaux qui s'approchent beaucoup des habitations et qui peuvent en effet poser souci dans l'élevage de poules par exemple. Et donc dans ces chroniques, je donne aussi des petites techniques pour voilà, pour
plein de solutions finalement. On n'est pas pris au dépourvu quand on écoute ta chronique. En préparant, hein, juste avant cette émission, on a discuté aussi des projets qu'on pouvait avoir et tu m'as parlé d'ateliers de pistage. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Oui, alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'anime surtout des choses par rapport aux plantes sauvages et j'ai eu envie de dire pourquoi pas revenir à mes premiers amours. Et j'ai la chance de découvrir le pistage animalier depuis quelques mois, un peu plus même. Et donc de me former tranquillement et de vous proposer à l'automne prochain mon premier atelier de pistage animalier. Alors en quoi ça consiste? C'est partir à la découverte d'un lieu et à la découverte de ses habitants. Donc par la découverte de toutes les traces que les animaux peuvent laisser. Ça peut être des empreintes, des plumes, des poils, des pistes, hein, ça on les coulait. En lisant le paysage, on peut voilà, voir qui est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est passé par là, cet animal. Donc c'est tout ça, c'est un petit peu un jeu de détective privé pour découvrir les animaux qui nous entourent.
Et tout ça dans le Maine-et-Loire?
Et oui, ce sera dans le vallon de Mise en Grain. D'accord. Pour la première.
À donc, côté on n'a pas besoin de partir en voyage à l'autre bout du monde pour voyager et jouer les détectives et découvrir des choses.
De partir en voyage tout près de chez nous.
Merci Noël pour m'avoir permis de mieux comprendre ta chronique et ton métier.
Merci Marie.
Alors, merci pour cette super interview. Pour une bonne interview, il faut un bon intervieweur et un bon interviewé. Donc, c'était très bien. Je ne veux pas mettre la pression aux autres. nous allons écouter la seconde interview. Et donc, pour le coup, c'est Marie qui va être... Donc, Marie Fortin, notre hydrobiologiste, spécialiste du cycle de l'eau, qui va être interviewée... justement par Noël.
Petite interview croisée.
Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. Alors Marie, tu es hydrobiologiste. Peux-tu déjà définir en fait ce terme?
Alors, c'est amusant parce que toi, tout à l'heure, tu parlais du jeu de détective et le biologiste, l'hydrobiologiste en tout cas, c'est un peu le détective de la rivière. C'est celui qui, en déterminant des traces du vivant, va être capable d'attribuer une note de qualité à la rivière en se basant finalement sur ses habitants. Qui vit dans cette rivière et est-ce que c'est représentatif d'une rivière en bonne santé ou pas en bonne santé. Donc ça, c'était mon premier métier. Et aujourd'hui, je le cumule, ce métier, avec un métier d'enseignant en sciences de la vie et de la terre. Et j'ai gardé un pas sur le cycle de l'eau, puisque je fais des conférences et des formations à destination des élus, à destination des agriculteurs, sur le cycle de l'eau et le qui fait quoi de l'eau.
Et donc, tu me partageais que la transmission, aujourd'hui, était un objectif fort pour toi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu animes cette chronique « L'aquabulaire, le vocabulaire des mots de la rivière », c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, « L'aquabulaire, les mots de la rivière ».
En quoi consiste cette chronique « L'aquabulaire » ?
Alors, c'est parti du fait que je me rendais compte régulièrement que les mots que j'employais laissaient les gens un petit peu pantois. Quand on parle de nappe phréatique, quand on parle de bio-indicateur ou de ripisyl, on dit « mais c'est quoi ça ?» Et ma fille faisait partie de ces personnes qui me disaient « mais je sais pas ce que ça veut dire ». Et j'avais trouvé ça assez intéressant de se dire que c'est des mots importants qui font partie de notre environnement, qui font partie du fonctionnement des écosystèmes et des écosystèmes aquatiques. Et j'ai eu envie finalement de faire une chronique qui permette de décrypter ces mots qui sont beaucoup plus simples qu'ils n'y paraissent, avec ma petite touche personnelle, l'idée que ce soit quelque chose d'accessible au grand public. Pas, même si dans la chronique on entend la voix de ma fille au début de l'émission, c'est pas à destination des enfants, c'est vraiment à destination de tout le monde et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Très bien. Et donc le lien entre ta vie professionnelle, personnelle et cette chronique, donc c'est ton métier?
C'est mon métier. Alors pour revenir un peu au point de départ, j'étais biologiste de terrain et j'aimais bien partager avec mon entourage notamment ce que je faisais sur le terrain, les rivières que je visitais. Et en 2012, alors maintenant c'est un peu moins à la mode, mais en 2012 j'ai créé un blog qui s'appelait l'Hydrobioloblog. Je m'amusais déjà avec les jeux de mots en lien avec la rivière. Et c'est rigolo que tu aies parlé de ça tout à l'heure, du fait qu'on se soucie de ce que l'on connaît bien finalement, parce que c'était exactement le sous-titre de mon blog à l'époque, on ne se soucie que de ce que l'on connaît. Et je m'étais dit que si les gens étaient plus à même de comprendre les rivières, ils auraient plus à cœur de les protéger et de s'y intéresser, de s'intéresser à ce qui vit dedans. Et globalement, cette idée de transmettre a fait que j'ai changé de métier et que je suis devenue enseignante à côté. C'est le point de départ et la charnière finalement de toute ma vie professionnelle aujourd'hui.
Ouais. Donc la transmission, la sagesse qui arrive avec toute l'expérience que tu as pu avoir. Et quel serait ton mot préféré dans cet aquabulaire ?
Le mot préféré dans l'aquabulaire, je crois que c'est le terme justement de bio-indicateur et de comprendre que la présence du vivant nous donne des informations sur le fonctionnement d'une rivière. Savoir que si on a certaines espèces, ça veut dire que l'eau est fraîche et bien oxygénée, ou au contraire si on en a d'autres, eh bien c'est qu'il y a une problématique de pollution et qu'il va falloir réfléchir autrement à l'aménagement du cours d'eau. Et voilà, le fait que le vivant finalement nous informe avec plus de précision parfois que n'importe quelle étude beaucoup plus mesurée, physique ou chimique. Je trouve ça absolument fascinant.
L'enseignement de la nature, si on l'observe bien.
Exactement. Ouais. Je crois que c'est notre point commun à toutes les deux, en tout cas, de se baser sur ce que l'on observe et on a tant à apprendre juste en regardant.
Merci beaucoup.
Merci, Noël.
Merci pour cette interview. Alors, nous avons une question de Arcandiar.
Rebonjour, c'est passionnant. Le sujet de l'eau nous réunit tous parce que les végétaux, comme tout organisme sur Terre, est essentiellement constitué de liquide. Et c'est vrai que là, on a passé une période où on enchaîne les inondations, les sécheresses et tout ce qui va avec. Et aussi, on a eu surprise de découvrir dans nos cours d'eau des espèces de nuages turquoises qui flottent en surface, qui sont, c'est vrai, très très beau à observer. Comment on peut réparer nos erreurs? Est-ce que c'est facile de rendre une rivière qui a été polluée de nouveau claire et limpide, ou est-ce que c'est mal barré?
Alors, faisons une réponse positive en deux temps. Effectivement, on a des sources de pollution qui ne sont pas du tout anodines à l'heure actuelle et qui ont été encore plus mises en évidence avec les grandes crues, hein, parce que les grandes crues de ces dernières semaines ont lessivé pas mal les sols, dont les hydrocarbures présents sur les sols, qui, comme toutes les sources de polluants, finissent dans la rivière. Le petit avantage, c'est que la rivière, malgré tout, c'est une eau qui s'écoule et qui a la capacité à s'auto-épurer. Et ça, c'est même vous qui allez en parler certainement mieux que moi aujourd'hui, parce que c'est la présence des plantes, hein, qui permet majoritairement l'auto-épuration. Et puis, la capacité à une rivière de nettoyer elle-même sa pollution, c'est surtout grâce aux plantes. C'est pas mal barré, c'est jamais mal barré, heureusement. Il y a des solutions. Il y a déjà le fait de limiter tout ce qui peut venir jusqu'à la rivière, hein, donc vraiment être dans la prévention. Et une fois qu'on a une rivière qui malheureusement est polluée, lui donner la possibilité de se dépolluer elle-même en lui rendant toutes ses capacités biologiques. Donc non, moi je suis pleine d'espoir sur ces sujets-là. Et puis oui, des fois on voit des pollutions, mais tu sais, parfois les pollutions les plus visibles sont pas les plus problématiques. Donc alors bon, le côté irisé, c'est pas joli joli, mais on s'intéressera peut-être plus aux PFAS, hein, toutes ces molécules qui ont des durées de vie absolument extraordinaires. Là, ça va être peut-être plus compliqué.
Donc, Marie Chevrol pose une question à Marie.
Oui, bonjour à toutes. J'aurais voulu savoir si tu avais une vision particulière sur l'eau que l'on boit également.
Alors moi, mon métier vraiment de base, hein, c'est vraiment biologiste de rivière. Donc, je m'intéresse à l'eau brute. Plus particulièrement, l'eau que l'on boit, c'est une eau traitée qui subit énormément de transformations et de traitements pour être potable. Ça reste malgré tout une eau d'excellente qualité en France, extrêmement contrôlée en France. Et j'ai toujours tendance à rappeler, hein, cet état de fait qu'on boit une eau qui est parfaitement potable. Et je le dis parce que parfois on a tendance à vouloir se tourner vers l'eau en bouteille et la pollution plastique et ce qu'on retrouve dans l'eau plastique, enfin dans les eaux en bouteille, c'est vraiment pas vraiment satisfaisant. Alors la vision que je pourrais avoir sur l'eau que l'on boit, c'est qu'on ne protège pas assez nos eaux brutes et que si on protégeait un peu plus nos rivières et nos eaux brutes, on aurait des coûts de traitement et des traitements derrière qui seraient moins nombreux. Donc ce serait un système un peu gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des eaux qui subissent énormément de traitements pour notamment en supprimer les herbicides. C'est majoritairement les molécules que l'on retrouve dans l'eau du robinet, en tout cas dans le Maine-et-Loire. Et ça, c'est une question qui... c'est plutôt un sujet qui pose question, on va dire.
Comme le temps nous est compté, nous allons avoir le bonheur d'écouter Arcandia, qui sera cette fois-ci interviewée par Laura.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Bonjour. Alors, Arcandia, ta chronique s'appelle « Jardin avec les plantes sauvages ». Peux-tu nous présenter cette chronique ?
Oui, bien sûr, avec joie. Alors, cette chronique, c'est un petit peu, comme beaucoup d'entre nous, c'est rendre hommage à toutes ces êtres vivants, et là on parle des plantes essentiellement, qui sont plutôt acceptées quand il s'agit d'un champ, plutôt loin des routes, plutôt loin des trottoirs. Mais qu'est-ce qui se passe si on accepte toutes ces sauvageons dans notre jardin? Est-ce que notre jardin va ressembler à une friche? Voilà, j'essaye de répondre à ces questions et donner des clés sur comment les apprivoiser, les faire entrer dans notre espace, dans cet enclos dont on est les gardiens qui s'appelle le jardin, cette espèce d'intermédiaire entre la nature sauvage dont a parlé Noël, dont nous sommes injustement séparés, et cet espace qu'on attend du jardin, c'est-à-dire un espace qui est confortable, qui répond à nos besoins, où on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir recevoir nos amis ou nos enfants vont pouvoir jouer. Donc voilà, je les accompagne, je les sublime, je les sculpte de façon à montrer au public qui visite mes jardins et à ceux à qui je m'adresse dans ces chroniques que ces plantes sauvages participent volontiers au beau et au bon qu'on attend d'un jardin.
Donc tu sculptes ton jardin, tu cultives également, c'est ça? Tu travailles un peu avec ces plantes sauvages, tu essayes de sublimer ce jardin et tu reçois des personnes chez toi, du coup, c'est ça?
Exactement, c'est vraiment très cyclique, donc je vis avec la nature, le jardin vit avec la nature, donc j'essaye de suivre son rythme. Donc je vous ai déjà parlé dans les chroniques de la mort au jardin, hein. J'ai commencé fort en parlant d'un sujet très 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 tabou, aussi bien esthétiquement que sociétalement parlant. L'idée, c'est vraiment d'accueillir cette fougue que tout jardinier a connue au printemps, qui est cette levée gigantesque et cette montée végétale qui va envahir notre jardin comme une vague verte. Et là-dedans, en fait, je vais sélectionner d'abord toutes les plantes que je vais vouloir garder. Et c'est vraiment propre à moi. Ce que j'invite les gens à faire, c'est pas à reproduire ce qu'ils ont vu chez moi, chez eux, mais à s'approprier en fait tout ce monde sauvage qui va se manifester et à voir ce qui est acceptable pour eux ou non selon leurs propres critères. Donc ça va être des critères esthétiques, ça va être des critères de confort, de temps aussi, de temps à accorder à son jardin. C'est pas un type de jardinage qui nécessite moins d'intervention qu'un jardin classique, ça nécessite une vraie présence de jardinier. Donc voilà, et je fais effectivement visiter ces jardins pour un petit peu faire montrer que c'est pas si dramatique que ça, qu'en fait si on laisse quelques plantes qui ont mauvaise réputation, elles vont pas envahir totalement notre espace, et que c'est tout à fait gérable si on sait les comprendre, si on sait aller avec elles et répondre à leur propre cycle.
Et qu'est-ce qui t'a amené à créer ces jardins, sculpter ces jardins avec le monde sauvage? À qui s'adresse ton art? C'est un art un peu ce que tu fais, c'est ça? C'est de l'artistique avec le monde sauvage?
Exactement, à la base c'était un jardin comestible où je voulais que des plantes rares, donc j'ai passé mes premières années à dédier tout mon temps au désherbage pour n'avoir que ma petite sélection végétale, et en même temps, comme l'a très justement dit Noël, c'est que j'ai commencé à découvrir tout ce monde qui circulait, les animaux, les plantes sauvages qui étaient dans mes jardins, et plus ça allait, plus j'apprenais à les connaître, du coup à supprimer quelque chose qu'on connaît et qu'on commence à aimer, ça devient plus compliqué. Je me suis dit, mais il y a forcément un moyen que je puisse créer un jardin avec elle et qu'on arrive à travailler ensemble. Donc c'est parti de là, parti de fatiguer, de lutter contre des présences que finalement j'adore à l'extérieur, pourquoi je les adorerais pas chez moi? Donc c'est parti comme ça, et après forcément la sélection végétale comestible s'est élargie avec une sélection qui vient ornementale, donc qui a plus pour but d'apporter un peu de peps à certaines périodes de l'année qui sont un peu plus disgracieuses dans le monde sauvage, par exemple l'été où tout va sécher, etc. Donc avoir des feuillages persistants, avoir des floraisons estivales qui viennent égayer un petit peu tous ces temps disgracieux.
C'est un peu un travail paysager, artistique, c'est tout un univers,
c'est s'approprier ce que la nature nous donne et ce qu'on a envie d'en faire, et là-dedans j'ai effectivement des plantes qui se mangent, et j'aime le beau et j'aime le bon, et donc tout ici autour de la table, on a une façon différente.
Oui, une approche différente, ouais. Merci Arcandia.
Tu avais encore une question, Laura, parce qu'on a une question aussi de Noël. Donc, oui. Donc une réponse, une question courte avec une réponse courte.
Alors, Arcandia, est-ce qu'on peut visiter ces jardins?
Oui, bien sûr, on peut visiter ces jardins. J'ai une ouverture annuelle au moment des Rendez-vous au Jardin, qui est un événement national, que je vous invite à aller sur le site Rendez-vous au Jardin, et vous aurez tout plein de jardins qui vont être exceptionnellement ouverts à ce moment-là. Le week-end d'après, il y a aussi les rendez-vous dans mon jardin naturel, porté par un autre organisme. Mais donc, je serai ouvert le 6 et 7 juin, les après-midi, et le dimanche matin, je donnerai une petite conférence sur la forêt. Voilà.
Merci Arcandia.
Merci.
Voilà, de beaux moments à organiser. J'avais pas forcément prévu de la faire maintenant, mais je vous propose de faire une petite pause musicale. Donc j'ai choisi une chanson qui s'appelle, le titre s'appelle Femme nue, et il est chanté par une artiste dont j'ai trouvé très peu d'infos, qui s'appelle Poème Capitaine. Mais sachant que cette chanson fait partie de la BO d'un film, d'une série que j'ai vue récemment, qui s'appelle Les Saisons. Et donc voilà, je voulais partager cette chanson avec vous.
Une femme nue avec plein de vertus, notamment donner la vie, c'est de cela qu'elle est remplie. Elle nous a d'abord créés, puis on l'a aimée pour mieux la dominer et lui puiser toute sa beauté. Maintenant toute vêtue de cette robe qui la pollue, elle se sent perdue. Chez nous, chez elle, elle ne sait plus, mais on marche à l'envers. Elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Pour cette femme qui broie du noir, c'est bien elle dans le miroir. Pour s'oublier, elle fume des pétards. Elle a des problèmes pulmonaires. C'est jamais fini l'enfer. Elle rêve d'un baiser polaire, digne d'une pièce de Molière. À la place, sa robe l'oppresse. La déesse, fond de tristesse, même pas un geste d'Héraclès. Elle est bien seule dans sa détresse. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Mais on marche à l'envers, elle est en colère, sans ses cheveux verts, on va perdre notre mère. Ou en temps d'épidémie, quand la machine s'affaiblit, son cœur revit. Mais joignons-la à la fête, c'est quand même elle qui nous a faites. Elle mérite une robe à paillettes, cette jolie planète, cette jolie planète, cette jolie planète, cette jolie planète, cette jolie planète.